Aujourd'hui, ça fait 77 jours que l'aventure Nouvelle Vie a commencé à Châteauguay. Pour ceux qui ne sont pas très doués comme moi en mathématiques, pour voir un peu le nombre de semaines que ça fait, 77 divisé par 7, ça fait 11. Il m'a fallu 3 ans en théologie pour arriver à un tel calcul. 11 semaines. Ça fait 11 semaines qu'on vit ensemble des temps bénis. Ça fait 11 semaines qu'on apprend aussi à se connaître. Et alors que la semaine dernière, on avait vécu, comme ça a été dit dans la vidéo, l'inauguration officielle de Nouvelle Vie Châteauguay, je trouvais important ce matin qu'on prenne le temps de s'arrêter et qu'on parle de vision. Qu'on parle de la vision, ce qu'il y a dans le cœur de Nouvelle Vie. C'est non seulement ce qu'il y a dans le cœur de Pasteur Claude, ce qu'il y a dans le cœur de tous les pasteurs dans le comité de direction, mais c'est aussi ce qu'il y a dans notre cœur à Julie et à moi. Et on croit vraiment que ce qu'il y a dans notre cœur actuellement, c'est une vision que Dieu nous a donnée. C'est une vision vraiment que Dieu nous a donnée. Et le titre de mon message ce matin, une vision de croissance. Avant de commencer plus loin dans mon message, quand je parle de croissance, il faut bien comprendre que je ne parle pas uniquement de croissance au niveau du nombre de personnes dans la salle. Je parle aussi de croissance spirituelle, de maturité individuelle. Chacun de vous, une maturité, une croissance dans votre maturité spirituelle. Et c'est important de le préciser parce que oui, le nombre, c'est beau, c'est génial, mais on veut que vous puissiez grandir, continuer à grandir dans votre foi avec Dieu. Parce que j'ai réfléchi, je me disais, mais c'est vrai que ça ne sert à rien d'avoir un immense océan qui ne fait que 2 cm de profondeur. Ça s'appelle une flaque, ce n'est pas un océan. Donc c'est sûr qu'on veut travailler aussi dans votre croissance individuelle. Et la lecture que je vais faire ce matin se trouve dans le deuxième chapitre des Actes des Apôtres. Et le contexte, avant de lire mon passage, c'est le suivant. Jésus vient d'être élevé au ciel. Et les disciples, les 120 disciples, sont seuls. Et alors qu'ils se mettent à prier, alors qu'ils attendent le Consolateur que Jésus leur avait promis, le Saint-Esprit vient les remplir, le Saint-Esprit vient les toucher. Et Pierre, l'apôtre Pierre, celui qui avait renié Jésus quelques semaines auparavant, qui avait peur de dire qu'il était un disciple de Jésus, décide de prendre la parole et d'annoncer le message de la bonne nouvelle de Jésus, le message de l'Évangile. Et alors qu'il fait son message, alors qu'il fait cette prédication, on lit dès le verset 21, « Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Ils s'appliquèrent fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte. » Car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de miracles. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés. Amen. Ils sont passés de 120 disciples à 3000. Pas pire comme croissance, non? Ça, c'est du message. Hein. Qui a dit que l'église primitive était une petite église? On voit dans ce texte-là la naissance de l'église. Et dès le début, c'était une église de croissance. Et au travers de ce passage, j'ai trouvé les 3 C. Les 3 C qui caractérisent la vision de croissance qui a Nouvelle Vie. Et ces 3 C, vous allez les retrouver partout. Que ce soit dans les groupes maisons, que ce soit avec les ados, avec les enfants, avec les aînés, dans tous les multisites, nous avons tous la vision des 3 C à Nouvelle Vie pour vivre une croissance. Et peut-être que vous les avez déjà entendus. Il s'agit de connaître, connecter, et contribuer. Connaître, connecter et contribuer. Et mon premier point, connaître. C'est le point le plus important pour vivre une croissance. Parce qu'il s'agit de connaître Dieu. Il s'agit de connaître davantage Dieu. Et c'est ce que vivait la première église. Au verset 42, on voit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières ». L'enseignement des apôtres et les prières avaient un objectif, permettre au peuple, permettre aux gens de connaître Dieu davantage, à découvrir encore plus qui il est. C'est pour ça aussi qu'on a fait, c'est pour ça qu'on a ça dans notre cœur de vous amener, de nous amener ensemble à découvrir encore plus qui est Dieu. C'est pour ça que cet été, on a fait une série 3 en 1, découvrir ou redécouvrir Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais cette découverte-là, ça ne s'arrête pas uniquement à cette série de l'été, je vous rassure. À chaque fois qu'on veut se réunir ensemble pour partager un message autour de la parole de Dieu, à chaque fois qu'on se réunit ensemble, que ce soit un mercredi soir dans le temps de prière ou que ce soit un dimanche matin, notre objectif, c'est apprendre à plus connaître Dieu. Mon objectif, c'est de vous donner envie d'apprendre à connaître Dieu davantage. Et les premiers chrétiens, ils avaient cette soif-là. Les premiers chrétiens, l'Église, on les voit, ils sont affamés. Ils avaient vraiment cette soif. Parce que quand il est écrit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ça vient du grec, pardonnez-moi pour mon grec, proskartero. Je m'attendais à « Waouh !» Non, c'est trop tard, une fois qu'on en parle. Proskartero, ça décrit ici une fidélité qui est inébranlable. C'est être constamment attentif. Ils avaient soif, ils avaient envie de connaître Dieu davantage, de continuer, ils apprenaient, ils voulaient apprendre davantage sur qui était Dieu. C'est vraiment dans leur cœur, ça brûlait dans leur cœur. Mais pourquoi c'est important de connaître Dieu? Pourquoi est-ce que c'est si important de vouloir connaître Dieu? Et on pourrait développer une série entière sur pourquoi c'est important de connaître Dieu, donc j'irai bref et juste, j'ai retenu 3 points. Premier point, c'est parce que je connais Dieu que je peux être en paix lorsqu'il y a une tempête. Dieu nous dit en psaume 46 et au verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et ici, notre contexte nous permet de comprendre ce verset. Ici, dans le contexte, le peuple se trouvait face à une armée immense, une armée géante de barbares. C'était des tueurs en série. C'était des hommes qui ne laissaient aucun survivant derrière eux. Ils faisaient des choses abominables aux femmes. Ils tuaient les enfants. Et le peuple voit cette armée qui arrive devant eux. Et leur premier réflexe, ils ont peur. Normal. Mais Dieu leur dit, arrête. Arrête d'avoir peur. Arrête de craindre pour ton avenir. Arrête de craindre pour ta famille. Arrête d'être anxieux. Arrête de trembler. Fais-moi confiance. Regarde à qui je suis. Sais qui je suis. Reconnais qui je suis. Et on ne peut vivre la paix dans nos moments de terreur, d'angoisse, que si on connaît réellement qui est Dieu. Parce qu'en connaissant qui est Dieu, on sait qu'on va pouvoir s'appuyer sur lui, on sait qu'il sera fidèle pour ne jamais nous laisser tomber. Pourquoi c'est important de connaître Dieu? Parce qu'apprendre à connaître Dieu, c'est commencer à goûter à la vie éternelle. Ça ne va pas être affiché sur vos écrans, mais Jésus, il a fait une prière en Jean, et Jean nous relate cette prière, et Jésus disait « Or la vie éternelle », en Jean 17,3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi ». Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important de connaître Dieu. C'est parce que connaître Dieu, c'est le début de la vie éternelle. Troisième point, pourquoi est-ce que connaître Dieu, c'est important? Parce que la connaissance de Dieu est toujours associée à la croissance dans la Bible. 2 Pierre 3,18 nous dit « Mais grandissez dans la grâce et... » Grandissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais comment on peut grandir alors? Comment connaître de plus en plus Dieu? Comment on fait pour connaître Dieu davantage? Je vais vous apprendre peut-être quelque chose, c'est un point qui est vraiment compliqué à faire. Lire la Bible et prier. Amen, merci. C'est dur, mais pas si compliqué que ça au final. C'est simple en fait, juste lire la Bible quotidiennement te permet de connaître Dieu davantage. Prier à chaque jour te permettra de connaître Dieu davantage. Tu veux connaître Dieu sans lire ta Bible et sans prier? C'est comme si tu voulais être musclé comme Dwayne Johnson, mais que tu n'allais jamais à la gym et que tu mangeais de la poutine tous les jours. J'ai essayé, ça marche pas des masses. C'est pas possible. Je vous ai déjà cité la déclaration d'Oswald Chambers, mais je l'aime tellement, je la redis aujourd'hui. C'était un grand théologien du XXe siècle, et il disait « On voit la prière simplement comme moyen d'obtenir des choses pour nous-mêmes, mais le but biblique de la prière est qu'on puisse apprendre à connaître Dieu lui-même. » Même un livre de Tom Rainer qui a étudié un petit peu pourquoi les églises meurent, il a fait une autopsie, entre guillemets une autopsie, des églises qui sont mortes, et il a découvert une des raisons pour laquelle des églises meurent, c'est parce que les membres ne priaient plus ensemble. Et quand les membres ne prient plus ensemble, ils n'apprennent plus à connaître Dieu, et l'église connaît une décroissance. Parce que l'inverse de croissance, c'est la décroissance. 3 ans de théologie aussi pour arriver à cette conclusion. C'est pour ça qu'on veut organiser une soirée de prière. C'est pour ça qu'on organise une soirée de prière le 6 octobre, c'est parce qu'on veut connaître Dieu davantage. C'est parce qu'on veut prier avec vous. L'Église ne pourra pas connaître une croissance. Vous ne pourrez pas connaître une croissance personnelle dans vos vies s'il n'y a pas la prière comme socle, s'il n'y a pas une vie de prière. Tu veux connaître Dieu personnellement ? Tu veux voir une croissance dans ta vie ? Dans ton église, prie. Et viens prier avec nous le 6 octobre. J'en profite pour refaire l'annonce. Viens prier avec nous le 6 octobre. Amen. Tous ceux qui ont dit amen, je m'attends à vous voir le 6. Connaître et connecter. On retourne dans notre texte, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient ensemble. Les premiers chrétiens étaient ensemble. Ce n'était pas quelque chose qu'ils faisaient, c'est quelque chose qu'ils étaient. Ils étaient ensemble, ils étaient un, c'est ce qu'ils étaient, c'était dans leur ADN. La croissance de l'Église et ta croissance personnelle, spirituelle, elle ne pourra pas se faire sans la communion fraternelle. On ne peut pas vivre une croissance personnelle, spirituelle, en étant éloigné de l'Église. On ne peut pas vivre une croissance personnelle dans notre foi en ne se réunissant jamais non plus dans la même Église. Il y a un livre que j'ai lu dernièrement de C.S. Lewis, ça s'appelle « Les tactiques du diable ». Et c'est un récit un peu imagé de Lewis. Et une des tactiques du diable, Lewis dit, c'est que le diable nous encourage certains à visiter les églises, d'aller en église en église. Pourquoi ? Parce que ça va en faire des personnes spécialisées sur l'église, donc des personnes critiques. Et deuxième point, parce que ça va faire des personnes qui ne s'investissent pas dans l'église, qui ne cherchent pas à connecter, qui n'ont pas d'attache dans l'église. Voilà pourquoi le diable veut nous éparpiller. Allez, va visiter cette église, va visiter cette église. Mais certaines personnes, je sais aussi, se disent « Ouais, mais c'est dur là de se connecter avec des gens dans une grande église. C'est compliqué là. Nouvelle Vie, c'est une grande église, c'est trop impersonnel, il y a trop de gens. » La première église, ils étaient 3000. Et ils connectaient ensemble. Et on voit plus loin dans Actes 4 et au verset 4, ils sont même passés à 5000. Et ils connectaient ensemble. On n'a pas d'excuse, nous, aujourd'hui. Qu'on soit 10, qu'on soit 100, qu'on soit 2000, on n'a pas d'excuse pour ne pas connecter avec nos frères, avec nos sœurs. Maintenant, je veux juste faire aussi une petite parenthèse. Je sais que certains ont été blessés par l'Église. Je sais que certains ont été blessés par des chrétiens. Peut-être même blessés par moi. Et si c'est par moi, vraiment pardon. Ce n'était pas mon intention. Mais si tu as été blessé dans l'Église, tu ne pourras pas vivre de guérison si tu ne vas plus à l'église. Si tu as été blessé dans l'église, il n'y a que dans l'église que tu vivras une guérison. Amen. Connecter amène une croissance, mais la connexion doit passer par l'unité, être un. Dans la Bible, l'église, c'est le corps de Christ. Mais un corps ne peut pas fonctionner correctement si les membres sont les uns contre les autres. Si ma jambe gauche décide d'aller à droite et que ma jambe droite décide d'aller à gauche, vous allez me regarder bizarrement, non ? Si ma main droite commence à frapper ma main gauche parce qu'elle est jalouse de mon alliance sur la main gauche, vous allez me dire, mais il y a un problème. Il est un peu absurde, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa tête. Pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de divisions. On voit de plus en plus de mouvements qui se déchirent à propos de sujets ridicules. Durant ces derniers mois, on a vu des divisions dans nos églises sur la politique. Et même pas à propos de la politique de notre pays, mais à propos d'un autre pays. On a vu des divisions sur le vaccin, mesures sanitaires, pandémie, conflits raciaux qui ont entraîné des insultes, des conflits sur les réseaux sociaux. On s'attaque dans le dos, on se poignarde dans le dos. On voit des églises qui explosent, des églises qui commençaient à grandir et d'un coup, pom, ça explose à cause d'une division. Aujourd'hui, il est plus important de gagner son débat, d'imposer sa pensée que de préserver l'unité. Et ça, je me le parle moi-même parce que j'aime gagner des débats. Sauf que gagner un débat, coûte que coûte, peu importe la manière dont on le fait, gagner un débat implique forcément que quelqu'un a perdu ou que quelque chose a été perdu. L'Église a été et est meurtrie aujourd'hui par toute cette division, par l'absence d'amour, de respect envers les uns et les autres. Le corps se divise. Et sans unité, il ne peut pas y avoir de croissance. Et sans croissance, ce n'est pas seulement l'Église qui subit les conséquences, ce n'est pas seulement le corps de Christ qui en subit les conséquences, c'est aussi la mission à laquelle nous sommes appelés. C'est aussi la mission que Jésus nous a donnée d'être une lumière dans ce monde. Et si nous sommes divisés, on ne remplit plus la mission de Jésus. On ne peut plus remplir cette mission. Nous devons retrouver l'amour fraternel qu'avait la première Église dans les Actes. Dernièrement, j'écoutais un podcast de pasteur Guillaume Bourin, qui était l'un de mes anciens professeurs à l'ITF, et c'est un de mes amis maintenant, et discutait avec un de ses amis, pasteur Pascal Deneau, sur le passeport vaccinal. Et ils commençaient à échanger leurs positions sur le passeport vaccinal, et les deux avaient des avis contraires, les deux avaient des avis différents. Et pendant tout le podcast, je ne les ai jamais entendus se critiquer, s'attaquer, être violent, avoir des propos violents l'un envers l'autre. Pourquoi ? Parce que la fraternité était plus importante de savoir qui gagne le débat. Comment connaître une croissance ? En grandissant dans l'unité. Vous savez, ce n'est pas la persécution qu'on voit au Moyen-Orient qui fait le plus de mal à l'Église. C'est les divisions qu'on vit en Occident, sur des sujets même pas importants. C'est même pas important les raisons pour lesquelles on se divise le plus souvent. Quand on regarde les sujets de division, c'est pour ça que vous vous divisez ? C'est vraiment pour ça ? Pour connecter de la meilleure façon aujourd'hui, nous avons besoin de l'amour de Christ. Tu n'arrives pas à aimer ton frère parce qu'il pense différemment de toi, tu n'arrives pas à aimer ta sœur parce qu'elle a des avis, des opinions différentes de toi. Ne prie pas pour que Dieu la change. Prie pour que Dieu te change. Prie pour que Dieu touche ton cœur. Prie pour que tu puisses apprendre à l'aimer comme Jésus l'aime. Prie pour que tu puisses apprendre à voir cette personne qui pense différemment de toi comme Jésus la voit. Amen. Vous savez, Nouvelle Vie Châteauguay, moi, je suis émerveillé parce que vous êtes une église qui aime connecter avec les gens. Chaque fois qu'il y a une personne qui vient de Longueuil, de Nouvelle Vie Longueuil, qui vient ici, elle me dit tout le temps, mais waouh, tes gens, ils aiment ça, la connexion. Ils connectent, il y a l'amour, Et c'est beau. Mais je prends vraiment ce temps pastoralement pour vous dire, protégeons ce don d'amour comme un trésor. Pas avec de l'orgueil, mais avec de l'humilité. Ne considérez pas cette force comme étant quelque chose d'acquis. Vous savez, quand on fait une interview d'une famille qui peut vivre une catastrophe, un enlèvement d'un enfant, un meurtre, ou quoi que ce soit, quelque chose d'horrible et d'affreux, l'une des premières choses qu'ils disent aux journalistes, c'est « d'habitude, ça arrive aux autres ». Pas à nous. Et si je vous dis ça ce matin, c'est parce que là où deux ou trois sont assemblés, il y a un risque de division. Vous connaissez tous ce verset en plus, que là où deux ou trois sont assemblés, je suis avec eux. Mais Jésus en plus dit, dans le contexte, il parle en plus de réconciliation. Quand là où deux ou trois sont assemblés pour se réconcilier, je suis avec eux. Parce que là où deux ou trois sont assemblés, il y a des risques de division. Et c'est normal qu'il y ait un peu de conflit. C'est normal qu'on ne s'entende pas sur tout. C'est normal, c'est logique, nous sommes humains, nous avons tous une façon de penser différente. Mais que ces conflits n'amènent jamais à la transition. Soyons tolérants les uns envers les autres. Parce que l'ennemi de nos âmes n'a qu'un seul objectif, diviser pour mieux régner. Diviser l'Église qui rayonne pour mieux régner. Donc ce matin, je veux vraiment vous lancer un appel pastoral. Continuons à prier pour l'unité de notre Église. Continuons à prier pour l'amour fraternel dans notre Église. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Amen. La vision de croissance passe par nos 3 C, connaître, connecter et enfin contribuer. Au verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. On voit que dans leur croissance, les premiers chrétiens contribuaient par 2 façons. Premièrement, ils contribuaient par leur service, la fraction du pain. C'est pour ça aussi que depuis plusieurs semaines, on vous parle de service. Venez vous impliquer avec nous, venez, on a envie de servir avec vous, venez faire partie de notre équipe. C'est parce que nous croyons que l'implication amène la croissance. Pourquoi ? Parce que les bénévoles impliqués sont toujours des personnes passionnées. Et je le vois le dimanche matin. La passion, ça se communique. La passion, ça se ressent. Même ceux qui ont un peu moins, qui ont un peu plus de difficultés, qui viennent servir, qui ont passé une lourde semaine, ils arrivent un peu en traînant les pieds. Dès qu'ils sont au contact des autres bénévoles remplis de passion, ils retrouvent une flamme, ils retrouvent une joie, ils retrouvent un feu. Ce matin, quand je suis sorti de mon bureau, j'étais en mode concentré, puis un peu en mode « Allez, on va prêcher là ». Puis j'ai vu Jean-Sébastien qui m'a dit « Hey, aujourd'hui, c'est là que ça se passe aujourd'hui, il y a les enfants, il y a tout qui reprend, je le voyais tout excité. » Puis son excitation et sa joie, ça m'a reboosté. Les bénévoles impliqués sont toujours des personnes passionnées et la passion, ça se ressent. Et ceux qui sentent la passion vont vouloir revenir. Parce qu'ils vont être touchés par l'accueil, ils vont être touchés par l'amour, ils vont être touchés par la fraternité. Que ce soit de l'accueil, au placeur, à la sécurité, au stationnement, peu importe le service, il y a une différence à faire dans la vie de chaque personne au travers du service, afin d'impacter la croissance. Peut-être que pour certaines personnes aussi, il y en a qui se disent « Ouais, mais il y a trop de choix, je ne sais pas où servir. Je ne sais pas, c'est un peu compliqué, il y en a de partout là, je ne sais pas quoi faire. » Un mot. Tente. Tente. C'est ce que je dis à certaines personnes quand on me dit bah, « J'aimerais bien tenter ça, mais je ne suis pas sûr que je suis prêt. » Tente. Au mieux, tu vas t'épanouir. Au mieux, tu vas découvrir des nouveaux dons. Au mieux, tu vas découvrir tes talents. Au mieux, tu vas comprendre pourquoi Dieu t'a placé dans cette église. Et au milieu, de l'autre côté, tu vas comprendre que ce n'est pas fait pour toi. Mais dans les 2 cas, tu auras vécu une croissance. Tu auras avancé, tu auras grandi. Il y a un service pour toi, il y a un ministère pour toi ici à l'église qui t'attend. Si Dieu t'a placé dans cette église, dans ce corps, ce n'est pas uniquement pour consommer, mais c'est pour servir avec les dons qu'il t'a confiés, qu'il t'a donnés. La chaise sur laquelle tu es assis aimerait peut-être accueillir quelqu'un d'autre. Je ne dis pas ne revenez plus, au contraire, non, non. Mais peut-être qu'elle aimerait accueillir quelqu'un d'autre. En fait, il faut réaliser que lorsque nous servons l'Église, lorsque nous nous servons les uns les autres, c'est Christ que nous servons. C'est Jésus que nous servons. C'est celui qui a tout donné pour nous à la croix que nous servons. Et pour le faire, pour comment servir, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. On se rend au kiosque d'info qui est dans le hall. On met son nom et on coche des cases. Je pense qu'on a essayé de simplifier la chose. Mais c'est simple. C'est vraiment simple. Et quand on parle de contribuer, il y a une deuxième facette que l'Église des Actes faisait. C'était une contribution au niveau matériel, une contribution financière. Alors je vous rassure, je vais pas commencer à prêcher et dire vendez tous vos biens, vendez vos maisons, vos voitures et puis donnez tout à l'Église. Je vous rassure. Mais le principe de générosité, le principe de soutien financier, ça se retrouve partout dans la Bible. C'est pas juste un principe que les pasteurs aiment prêcher parce qu'on est un peu en difficulté financière. Non, non. C'est l'un des sujets sur lequel Jésus a le plus parlé durant son ministère. L'argent. C'est pas la fin des temps. C'est pas... Non, c'est l'argent. C'est un principe qui est divin. Dieu nous invite, nous, à être généreux dans nos dons. Parce qu'il veut nous amener à reconnaître que ce n'est pas notre argent, c'est son argent. Ce n'est pas mon argent que j'ai gagné pour mes biens, mais non, non. C'est pas, j'ai pas gagné cet argent uniquement grâce à mon travail. Non, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Et donner, c'est reconnaître que c'est toi qui m'as tout donné. C'est toi qui m'as tout donné. C'est aussi, pourquoi donner son argent? Mais c'est dire que non, l'argent n'est pas la source de ma vie. L'argent n'est pas ma sécurité. L'argent n'est pas mon bonheur. Mais mon bonheur se trouve en lui. Mon bonheur et ma sécurité se trouvent en lui. Il y a un principe de générosité dans la croissance. Il y a un principe de générosité et il faut croître, il faut grandir en générosité. Il y a quelques années de ça, j'ai entendu un message justement sur la croissance dans la générosité. Et quand j'ai entendu ce message, j'étais à l'ITF. Et à l'ITF, quand on est étudiant étranger, en plus on paye l'université Laval maintenant, et les factures s'élèvent à 5 chiffres par année. C'est assez conséquent. Et on vivait uniquement sur un salaire. C'était le salaire de Julie. Et pourtant, quand j'ai entendu l'idée de croître en générosité, je me suis posé avec Julie, je dis « Ok, on donne déjà ce pourcentage-là, mais je sens qu'on est appelé à augmenter. » Pas augmenter avec des folies, on donne tout notre salaire, non, non. Augmenter avec sagesse, avec ce que Dieu nous a mis dans le cœur. Et depuis ce jour-là, à chaque année, on se pose devant nos finances et on dit « Ok Seigneur, comment est-ce qu'on peut grandir encore dans notre générosité? Quel est le pourcentage que tu veux qu'on augmente cette année ?» Parce que c'est ça aussi ce que Dieu nous demande, de grandir en générosité. Et je vais prendre le temps ce matin aussi de remercier aussi tous ceux qui donnent fidèlement chaque semaine, chaque mois à l'Église. Vous savez, toutes les rénovations qu'on voit aujourd'hui, c'est grâce à vos dons. L'Église Nouvelle Vie n'a pas des fonds illimités. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, tous les nouveaux écrans, tout ce qui nous permet d'accueillir en bas les enfants dans des nouveaux locaux tout frais, tout neufs, qui sentent la peinture, le frais, c'est grâce à votre générosité, c'est grâce à vos dons. Et merci pour ça. Mais on a encore d'autres projets. On a encore d'autres projets de rénovation, et pas seulement de rénovation uniquement pour nous, pour l'Église, mais aussi des projets sociaux. On veut que l'Église impacte la ville, on veut que l'Église ait un impact sur la ville, et ça ne peut passer que par votre générosité. On a besoin de votre générosité, on a besoin que l'Église grandisse en générosité afin d'accomplir la mission pour laquelle Jésus nous a appelés. Et il faut que je précise un point malgré tout. Quand on parle de générosité, quand on parle de service, quand on parle de donner, aussi bien de donner notre temps que de donner financièrement. Je ne vous appelle pas à donner afin de recevoir quelque chose en retour. L'évangile, ce n'est pas ça. L'évangile, ce n'est pas « donne et tu auras ». L'évangile, c'est « Jésus t'a tout donné ». Et il te demande tout en retour. C'est ça l'évangile. Aujourd'hui, si je donne ma dîme, aujourd'hui, si je sers mon Église, c'est parce que Jésus m'a tout donné. C'est parce que Jésus m'a sauvé, alors que je ne méritais rien. Je ne méritais rien, mais par grâce, par amour, il m'a tout donné. Et on l'a chanté tout à l'heure. Tu as tout, dans le chant « Jésus, je te suivrai », que parce que tu as tout donné pour moi, je vivrai pour toi. Mes finances, mon temps sont pour toi. Et c'est ça le cœur de l'évangile. C'est ça le cœur de l'évangile. J'ai invité Jérémy à venir me rejoindre. Je pense que vous l'avez compris, nous avons une vision de croissance. on a une vision de croissance. Et je ne sais pas si vous connaissez la célèbre joueuse et entraîneuse américaine de basket, Dawn Staley. Un jour, alors qu'elle était jeune, son coach lui a dit cette phrase qui a marqué le reste de sa carrière. La croissance commence en dehors de ta zone de confort. Autrement dit, la croissance veut dire aller là où tu n'as jamais osé aller. Faire ce que tu n'as jamais osé faire. T'ouvrir à ce qui était impossible pour toi. Tu peux mettre la diapo 18. Je suis tombé sur cette photo dernièrement. Je ne vais pas juger cette entreprise américaine. Mais cette entreprise américaine a créé un nouveau bâtiment au Mexique. Et bien que j'aime cette entreprise parce qu'elle me permet d'obtenir des colis assez rapidement, j'ai été frappé par le contraste autour. On a le bâtiment flambant neuf et la pauvreté tout autour. Et en voyant cette photo, ma prière, j'ai eu tout de suite cette prière de dire « Seigneur, qu'on ne soit jamais comme ça à Châteauguay. » Parce qu'aujourd'hui, on peut être en effervescence, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, c'est tout frais, c'est wouh, génial, c'est super, notre bâtiment est beau, notre bâtiment est propre, ça sent le neuf, ça sent la peinture, il y a des nouveaux matériaux, c'est extraordinaire. Mais ne pas chercher la croissance reviendrait à vivre la même réalité qu'on voit sur cette photo. C'est être tout beau à l'intérieur, on passe des temps ensemble, on passe des temps bénis ensemble, on est entre nous, on se fait du bien entre nous. Mais à l'extérieur, c'est la mort. À l'extérieur, la pauvreté demeure. La pauvreté spirituelle, la pauvreté matérielle. Peut-être que certains se disent « Ouais, mais moi, je veux pas de croissance. Moi, j'aime bien comment on est actuellement. Moi, je veux stagner. Je veux rester au même niveau. » Sauf que rester au même niveau sans connaître de croissance, à un moment donné, ça ne marche plus. Et on vit une décroissance. Refuser la croissance, c'est accepter la décroissance. Je vais le redire parce que c'est fort, c'est simple, mais c'est fort. Refuser la croissance, c'est accepter la décroissance. Mais accepter la croissance, c'est oser mêler les paroles aux actes. Oser la croissance, c'est oser prier pour la croissance. Seigneur, on veut des nouvelles âmes sauvées, on veut quelque chose de nouveau, on veut quelque chose de... On veut oser s'élargir, on veut vivre une croissance. Oser, c'est quand on dit ça, mais qu'on n'ose pas faire plus, il y a comme une certaine hypocrisie. Oser vouloir la croissance, c'est oser faire ce qu'on n'a jamais osé faire. C'est oser dire, Seigneur, je veux la croissance, donc ok, par exemple, je suis prêt à ce qu'on passe à deux réunions parce qu'il manque de place. Oser demander la croissance, c'est oser dire, Seigneur, je veux élargir mon cœur pour te connaître. Je veux oser prier la croissance, vivre une croissance personnelle, mais je sais que ça va impliquer que j'ouvre mon cœur encore plus pour la communion fraternelle. Demander pardon à des gens, arrêter de la chicane. Oser demander la croissance, c'est oser dire, Seigneur, j'élargis l'espace de mon temps, de ma générosité, de mon service pour toi. Dieu dit en Ésaïe 54 et au verset 2, agrandis l'espace de ta tente, qu'on déplie les toiles qui te servent d'habitation. N'en retiens rien, allonge tes cordages et renforce tes piquets. En effet, tu déborderas à droite et à gauche. Ta descendance envahira des nations et peuplera des villes désertes. Et peuplera des villes désertes. Et je sens que Dieu nous le dit à nous ce matin, ça. Il le dit à nous, il le dit à moi, personnellement. Toute la semaine, ça a résonné, ça, de mon cœur. Élargis ta tente, Florian. Élargis ta tente. Et quand Dieu nous demande d'élargir notre tente, c'est parce qu'il veut une nouvelle surface à remplir. Il veut qu'on ose lui donner une nouvelle surface à remplir. Dieu n'aime pas le vide. Donc si on lui donne du vide, il va le remplir. Même Dieu dit plus loin dans Ésaïe, ne t'oppose pas à ça, ne l'entrave pas ce projet. Ne te mets pas au travers de cette idée de s'étendre, de grandir, de la croissance. Donne-moi un nouvel espace à combler et je le comblerai. Dieu veut un nouvel espace. Dieu veut un nouvel espace. Et je vais vous inviter à vous lever ce matin, à bien remettre vos masques. Élargir l'espace de sa tente, c'est un défi. Oser élargir l'espace de sa tente, c'est un défi. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Il n'y a que Dieu qui est capable de remplir l'espace, le nouvel espace que tu veux lui donner. Il n'y a que Dieu. Dans les actes, on voit que c'est le Seigneur qui a ajouté des nouveaux membres. C'est le Seigneur, il n'y a personne d'autre. Nous, on ouvre et c'est le Seigneur qui remplit. Quel est l'endroit ce matin où tu dois laisser plus de place vide à Dieu? Quel est l'endroit dans ton cœur où tu sens que Dieu te demande élargis, élargis? J'avais envie de vous mettre au défi ce matin, jusqu'à la fin de l'année, d'ouvrir l'espace de votre cœur sur un domaine. Sur un domaine sur lequel nous venons de parler ce matin. Élargir ta tente peut-être sur le fait de connaître plus Dieu, de prier plus, de lire plus la Bible. Élargir l'espace de ton cœur sur le fait de connecter avec tes frères, avec tes sœurs, arrêter les chicanes, demander pardon, faire des efforts pour... Élargir ton cœur pour contribuer dans ta générosité, dans ton temps de service. Qu'est-ce que Dieu est en train de te dire ce matin? Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Quel est l'espace de ta tente qui mérite d'être élargi, d'être agrandi? On a chanté « Donne-moi un cœur tout entier ce matin. Donne-moi un cœur tout entier. » Et complètement dévoué, fais ce que tu veux de ma vie. Et on va s'apprêter à le rechanter ce chant-là, mais je nous invite ensemble à ce que ce chant-là ne soit pas un chant de plus, des paroles de plus, un chant par habitude, mais que ce soit vraiment la prière de chacun d'entre nous. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur, donne-moi d'élargir, d'oser élargir mon cœur. Je veux connaître une croissance, pas seulement pour moi, mais aussi pour ton Église. Je veux voir la croissance. Et Seigneur Jésus, on se tient devant toi ce matin. Seigneur, je te demande de parler au cœur. Saint-Esprit, fais le travail que je suis incapable de faire parce que c'est toi qui touches, c'est toi qui transformes, c'est toi qui viens challenger les gens. Je te prie que tu puisses parler dans chaque cœur, dans chaque personne, que chaque personne puisse se positionner devant toi et dire sincèrement, Seigneur, où est-ce que je dois élargir l'espace de mon cœur? Viens donner une pensée particulière pour chaque personne ce matin, s'il te plaît. Et viens remplir l'espace qu'on te donne aujourd'hui. Seigneur, prends le nouvel espace qu'on te donne aujourd'hui. Prends le nouvel espace que je te donne ce matin. Dans mon cœur, je veux élargir l'espace de ma tente, Seigneur, et te voir remplir cet espace vide. Nous voulons voir une croissance à Châteauguay. Nous voulons voir une croissance à Nouvelle Vie Châteauguay, pas seulement pour nous honorer, pas seulement pour nous donner une belle tape dans le dos et dire « Ah, c'est beau, c'est super ». Non, non, c'est pour que ton nom soit encore plus élevé, pour que ton nom soit encore plus glorifié, pour que des âmes qui ne te connaissent pas puissent passer de la mort à la vie. C'est pour ça que nous voulons encore plus élargir l'espace de notre tente. Alors Seigneur, viens nous challenger ce matin à rechercher encore plus ta croissance, à rechercher encore plus ton cœur, à rechercher encore plus à oser dire « Seigneur, je veux tenter un pas nouveau, je veux tenter quelque chose de nouveau, je veux tenter une expérience nouvelle. » Seigneur, viens nous surprendre, s'il te plaît. Donne-nous un cœur tout entier. Donne-nous un cœur tout entier et fais ce que tu veux de nos vies. Fais ce que tu veux de ma vie, Seigneur. Fais ce que tu veux de ma vie, Jésus. À toi la gloire, Père.